Maurice Renard, Brouillard en mer. C'était la troisième fois que je passais l'Atlantique à bord de la Vendée. Je m'étais fait presque un ami de vieux commandant Croisette, à qui, dès ma première traversée, le directeur de la compagnie m'avait aimablement recommandé. J'avais l'honneur de manger à sa table et nous causions souvent le soir après dîner. Un très charmant homme. Il se faisait complaisamment interroger sur toutes ces choses de la mer dont l'inconnu redoutable passionne toujours les gens de terre. Certes, le commandant Croisette préférait parler de son métier ou des curiosités qu'il avait vues de ses yeux au cours de ses voyages, mais quand j'abordais le chapitre des légendes, si sa bouche fine et un peu sévère esquissait un indulgent sourire, il ne m'en répondait pas moins obligeamment. Or, il advint que je l'entrepris sur le sujet d'une croyance fort belle à mon avis, l'une de ces admirables superstitions qui ne peuvent naître, comme celle du vaisseau fantôme, que dans l'esprit mystique et rêveur des marins. J'ai lu quelque part, lui dis-je, que lorsqu'un navire mis hors service est détruit et remplacé par un autre, l'âme du premier, si on peut dire, se plaît à hanter le second, et que cette âme du vieux bateau mort accompagne partout le bateau vivant comme une sorte de génie nostalgique et tutélaire. Je me tus, présumant que mon invitation à discourir susciterait seulement de la part de mon interlocuteur des remarques impersonnelles, et plutôt que quelques élans poétiques, que des considérations bien positives touchant à la longévité des navires, le nombre de milles qu'ils peuvent parcourir durant leur vie, les raisons pour lesquelles l'armateur les condamne à mort, le processus de la destruction. Et à ma grande surprise, le commandant Croisette garda le silence pendant quelques instants, comme si mes paroles l'eût jeté dans quelque méditation étrange. Et enfin, sans le moindre apprêt, il commença. C'était en novembre, vers 5 heures du soir, un peu avant la tombée de la nuit. Nous entrâmes dans un brouillard qui s'épaississait rapidement. Nous, c'est-à-dire l'Atlantide, tout son monde et moi qui commandais le paquebot. Nous faisions route, comme à présent, vers New York. La latitude et la longitude ne vous diraient rien. Il vous suffit de savoir que nous étions à mi-chemin en plein océan. J'étais souffrant par hasard, moi qui suis solide comme un roc. Je m'étais réveillé fiévreux, la tête branlante, brûlante, les tempes martelées. Toute la journée, j'avais somnolé. Mais quand je vis ce brouillard, je remontai au poste de la passerelle et je repris la direction de toutes les choses. La nuit et le brouillard. Une obscurité totale. On ne ferait pas mieux. Oh, ça ne me troublait pas. Ce n'est pas de la veille que je bourlinguais sur la mare aux harengs, comme vous dites. Seulement, toute ma vigilance était tendue. Je m'aperçus qu'il n'y avait pas de meilleur remède contre une indisposition sans doute passagère. 13 sans existence à bord et le brouillard. Je vous assure que tous les cachets pharmaceutiques du monde ne sont pas d'un effet plus souverain pour combattre la migraine. Nous arrivions à vitesse réduite et la sirène fonctionnait régulièrement avec des arrêts périodiques qui me permettaient d'écouter dans les ténèbres la sirène possible des autres. Oh, je ne vous dirai pas que je suis musicien, mais quand on a parcouru un grand nombre de fois la même ligne et que le brouillard fait par-ci par-là chanter les bateaux, on acquiert peu à peu l'oreille. Et c'est ainsi que j'entendis très nettement la voix toujours enrouée du Franklin, sans le voir. Il passait au loin. Je me rappelle l'heure, 7h15. Vous me direz que je ne pouvais pas ignorer que le Franklin était parti de New York tel jour à telle heure et que par conséquent, il devait ce soir-là se croiser avec l'Atlantide. Je vous l'accorde. Je reconnais que cela réduit considérablement le mérite de mon repérage par le son, mais attendez la suite. Nous naviguâmes jusqu'à 9 heures dans les mêmes conditions. Visibilité absolument nulle. Brouillard à couper au couteau. Froid assez intense. Et silence complet autour de nous. Rien que le bruit des vagues et le cri de notre sirène, un baume gisement net et grave. Les mille lumières de l'Atlantide éclairaient les ténèbres blanchâtres comme une muraille d'ouate impénétrable. Puis, à 9 heures, une chose se passa qui me donne le frisson quand je me la rappelle. Nos sirènes, après un silence réglementaire, notre sirène ne reprit pas. Réalisez cela. Au moment où je m'attendais à la réentendre, rien. Nous étions devenus muets. Une panne, si vous voulez. Pas grave et des plus réparables, mais avant que nous eussions recouvrer le peu pouvoir de hurler un certain temps s'écoulerait. Et je le confesse, la perspective de glisser sans voix, comme sans yeux, dans la purée de poire qui nous enveloppait n'était pas repoussante. Je suis alors ce que c'est qu'écouter. Pour laisser à Louis la disposition de toute sa force, mes autres sens, me semblait-il, s'effaçaient. Je ne vivais plus que par les oreilles. Soudain, mes nerfs furent secoués d'une angoisse violente. Un son puissant, un mugissement rauque, éclata sur la mer, dans l'espace si près de nous, par bâbord avant, que je crus tout perdu, et presque aussitôt apparut, courant sur nous, la silhouette géante d'un navire dont jusqu'ici rien n'avait annoncé l'approche. Machinalement, j'avais lancé mon ordre à la timonerie. Seul un coup de barre immédiat pouvait éviter la collision. L'autre manœuvra de la même façon. Et les deux paquebots passèrent à se toucher. J'aperçus comme une vision fuyante la coque immense, les vastes superstructures, les trois cheminées inclinées, vomissant des torrents de fumée. Et toujours retentissait lugubre la sirène rauque. Il s'était fait entendre si brusquement, et grâce à la fêle, une catastrophe effroyable avait été produite, pas produite. Mon second, auprès de moi, tremblait d'émotion. Il dit cependant, c'est la Floriana. Oui, c'était bien la Floriana, le nouveau leader de la Panaméricaine, le magnifique paquebot dont nous connaissions forcément la présence dans ces barrages, le Floriana qui accomplissait sa cinquième traversée. Eux aussi, reprit mon second, eux aussi, ils rentrent en quelque chose à leur sirène. On parle toujours de sabotage sur ces beaux bateaux neufs. Quelle fichue coïncidence! Eux et nous, réduits au mutisme à la même heure. Mais c'est une vraie veine qu'ils aient pu réparer juste à temps. Ce qui nous a permis de gouverner. Il s'en est fallu d'une demi-seconde. Oh, j'appelle ça providentiel. Êtes-vous sûr, lui dis-je, qu'ils aient pu réparer juste à temps leur sirène? Mais qu'entendez-vous par là, commandant? Me demanda-t-il en me considérant avec curiosité. Mais leur sirène, mon cher, leur sirène. Je n'osais pas continuer. Ce que j'allais dire m'effrayait. Peut-être était-il prudent de le garder pour moi. Mon second savait que j'étais mal en point. Qui sait s'il n'attribuerait pas à la fièvre la bizarrerie de mes propos? Qui sait si, ayant reçu ma confidence, il ne songerait pas. Le commandant était le jouet d'une hallucination, de Louis. Car, monsieur, ce n'est pas la sirène de la Floriana que j'avais entendue, moi, avec mes bonnes oreilles. C'est celle de l'Altona. Et savez-vous ce qu'était l'Altona, monsieur? Plus rien. Un vaisseau mort. L'Altona était démolie depuis un an. Et c'est la Floriana qui l'avait remplacée sur la ligne. Oh, c'était avant la TSF, avant bien d'autres inventions. Oh, moquez-vous de moi, mais je n'ai jamais cherché à savoir la vérité au siège de la Panaméricaine. La vérité. Je ne veux pas qu'elle me fasse peur. Mais moi, non. J'aime mieux, comprenez-vous. J'aime mieux croire qu'une nuit de brouillard en mer vécut 2 minutes de légende.